Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant est-ce que vraiment ce sont les Romains et les Juifs uniquement qui sont en quelque sorte donc responsables de la mort de Jésus-Christ. Est-ce vraiment ainsi? Nous essayons de voir de plus près, selon la parole de Dieu uniquement. C'est surtout ça qui est important, rien d'autre que la parole de Dieu. Donc, nous sommes à l'étude numéro 5, CD numéro 5, et c'est la 16e raison. La 16e raison de pourquoi Jésus doit mourir. Pourquoi? Eh bien, Jésus doit mourir, 16e, pour purifier notre conscience. Pour purifier notre conscience. S'il vous plaît, écoutez attentivement Hébreux chapitre 9, verset 14. Il est dit, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, verset 14. Chers amis, certaines choses ne changent jamais. La question de la conscience souillée et vieille comme le monde. Du reste, dès que Adam et Ève ont commis des péchés, ou le péché, eh bien leur conscience a été souillée. Leur sentiment de culpabilité les a ruinés. Ils ont mis fin à leur relation avec Dieu, puisqu'ils se sont cachés. Dieu mit également fin à leur douce et intime communion mutuelle, puisque ils se sont accusés réciproquement. Dieu a encore mis fin à leur paix intérieure, car pour la première fois, ils se sont découverts tels qu'ils étaient et ils en ont éprouvé de la honte, exactement comme moi, autrefois également. Et comment ? Voyez-vous, le problème de la conscience est latent dans tout l'Ancien Testament. Or, les sacrifices d'animaux, ils ne pouvaient purifier la conscience, absolument pas. Alors les dons et sacrifices ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui ou celle qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, ensuite aussi de toutes les ordonnances charnelles qui étaient imposées, ils étaient seulement jusqu'à une époque de réformation. Là, comprenez-vous ? Notez Hébreux chapitre 9, versets 9 et 10. Donc, Dieu, il a considéré les sacrifices d'animaux comme étant une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. Je répète, comme une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. et ils acceptaient leur sang comme étant suffisant pour purifier la chair. Je dis bien pour purifier leur chair de ces impuretés cérémoniales, mais pas la conscience. Mais pas la conscience. La conscience, elle, n'était pas purifiée et sanctifiée. Car aucun sang animal ne pouvait purifier la conscience. Les Israélites le savaient très bien. Notez Ésaïe 53 et le psaume 51. Et nous le savons également. Il a fallu donc la venue d'un nouveau souverain sacrificateur, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, avec un sacrifice plus excellent, c'est-à-dire celui de sa propre personne. Chers amis, écoutez encore ceci. Hébreux chapitre 9, verset 14. Il est dit combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu le Père, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Je répète, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu le Père, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux chapitre 9, verset 14. Les sacrifices d'animaux annonçaient le sacrifice final du Fils de Dieu, dont la mort a un effet rétroactif pour couvrir tous les péchés commis dans l'ancien temps par le peuple de Dieu. Il ouvre aussi, et surtout il les couvre les péchés, il couvre donc les péchés qui ont été commis par le peuple également dans la nouvelle Alliance. Gloire à Dieu. Nous qui vivons à l'ère moderne, celle de la science, celle de l'Internet, de la transplantation d'organes, de la communication instantanée, des téléphones cellulaires, nous faisons face au même problème que les gens d'autrefois. La conscience nous condamne, nous ne nous sentons pas assez bons pour nous approcher de Dieu. Aussi faussée que soit la conscience, elle dit vrai dans ce domaine. Quand elle dit « nous ne sommes pas assez bons pour venir à Dieu notre Père ». Alors nous pouvons nous faire des incisions. Nous pouvons jeter nos enfants dans une rivière sacrée aux Indes ou ailleurs, donner des millions à des œuvres de bienfaisance, offrir de notre temps pour servir à la soupe populaire, pourquoi pas. Nous pouvons faire pénitence de mille et une manières. Nous pouvons nous mutiler. Et le résultat sera toujours le même, car les souillures subsistent et la mort nous terrifie. Nous savons que notre conscience est souillée, non par des choses extérieures comme le contact avec un cadavre ou de la viande de porc. Or Jésus a dit que ce qui souille l'être humain n'est pas tellement ce qui entre en lui, mais ce qui en sort. Saint Marc, chapitre 7, verset 15 à 23. Nous sommes donc souillés également et comment? Par l'orgueil, eh oui, par l'apitoiement sur soi-même. Je suis toujours fatigué, j'en ai marre, j'ai un burn-out. Nous sommes souillés par l'amertume, par les pensées impures. J'ai connu cela, c'est affreux. Par l'envie, par la jalousie, par la convoitise, l'apathie et la peur, ainsi que par toutes les actions que ces choses inspirent. Ce sont toutes des œuvres mortes, dénuées de toute vie spirituelle. Elles ne procèdent pas de la vie nouvelle, mais elles émanent de la mort et elles y conduisent. C'est pourquoi elles alimentent le désespoir dans la conscience. Le sang de Jésus-Christ, il reste la seule réponse, aussi bien pour notre époque moderne que pour toutes les autres époques. Lorsque la conscience se lève et nous condamne, à qui nous adresser? À qui? Uniquement à Jésus-Christ. C'est lui seul, pas quelqu'un d'autre. À ses souffrances et à sa mort, bref, à son sang qu'il a versé pour toi comme pour moi. De tout l'univers, c'est le seul agent purificateur vraiment efficace pour procurer à la conscience, notre conscience, le soulagement dans la vie et la paix dans la mort. 17e, Jésus doit mourir pour acquérir tout ce qui est bon pour nous. Je répète, Jésus doit mourir pour acquérir tout ce qui est bon pour nous. Il est dit, lui, Dieu le Père, il n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains, chapitre 8, verset 32. J'aime beaucoup la logique de ce verset, non pas parce que j'aime la logique, mais parce que j'aime trouve là la réponse à mes besoins. Les deux parties de Romains, chapitre 8, verset 32, sont liées entre elles, et cela de façon remarquablement logique. Il se peut toutefois que la forme interrogative de la deuxième partie du verset, qui dit « Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Voyez-vous, si nous transformons la question en l'affirmation qu'elle soit entendue, ou qu'elle sous-entend, alors la logique saute tout à fait aux yeux. C'est-à-dire, lui, Dieu le Père, qui n'a point épargné son propre Fils, nous donnera certainement aussi toutes choses avec lui. Autrement dit, le lien entre les deux parties du verset rend donc la deuxième absolument certaine. Si Dieu a accompli, le plus dur, c'est-à-dire de livrer son Fils bien-aimé à la souffrance et à la mort, eh bien, il fera certainement ce qui est relativement plus facile, à savoir de nous donner toutes choses avec lui. l'engagement de Dieu notre Père à nous combler de toutes choses. Cela est aussi certain que le sacrifice de son Fils bien-aimé. Il n'a point épargné son Fils. Ceci étant accompli, pouvait-il cesser de nous être favorable? C'est impensable. Que signifie donner toutes choses? Il ne s'agit pas forcément d'une vie agréable et très confortable, ni de la protection contre nos adversités ou nos adversaires. Et nous le savons, car la Sainte Bible, elle déclare quatre versets plus loin. Là, il est dit, c'est à cause de toi, de Jésus, qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Romains, chapitre 8, verset 36. Beaucoup de chrétiens souffrent encore aujourd'hui de la persécution. Et comment? Quand la Sainte Bible demande si la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée pourraient nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 8, verset 35, elle sous-entend une réponse négative. Non parce que le chrétien n'est pas exposé à ces dangers, mais parce que dans toutes ces choses, nous sommes maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notez Romains, chapitre 8, verset 37. Comment comprendre alors cette promesse qui dit que grâce à la mort de Jésus-Christ pour nous, Dieu nous donnera aussi toutes choses avec lui? Eh bien, Dieu s'engage à nous procurer tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui nous est vraiment utile pour être conforme à l'image de son Fils. Romains, chapitre 8, verset 29. Et tout ce qui est nécessaire pour parvenir à une joie durable. Cette promesse, elle est indiquée avec cette autre qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 4, verset 19. Et quelques versets plus haut, l'apôtre Paul précise le contenu de la promesse. Il dit « En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, mais aussi à être dans la disette. Je puis donc tout par celui qui me fortifie. » Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13. Il est bien dit, tout par Jésus-Christ. Mais notons bien que ce tout inclut hélas aussi, la faim et la disette. Dieu répond à tout besoin véritable, même celui de pouvoir nous réjouir dans la souffrance lorsque nos besoins ressentis ne sont pas comblés. Les souffrances et la mort de Jésus-Christ, ils attestent que Dieu nous accordera tout ce qu'il nous faut pour faire sa volonté, surtout pour lui rendre gloire et pour parvenir à une joie durable. Durable. 10 18e raison, pourquoi Jésus doit mourir. Jésus doit mourir pour nous guérir des maladies morales et physiques. Et là, vous pouvez écouter passer une centaine de CD sur la guérison, sur les miracles, sur Internet. 3xW, Bible explique en un seul mot, .ch. Chers amis, il est dit en Ésaïe 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia. Ésaïe 53, verset 5. Et notez s'il vous plaît, Saint Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. Il est dit, « Il, Jésus, guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Saint Matthieu, chapitre 8, versets 16 et 17. Je répète, Jésus a pris toutes nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus-Christ souffrit et mourut. Il a donc souffert et il est mort pour qu'un jour la maladie soit totalement éradiquée, car la maladie et la mort n'étaient pas incluses dans le plan initial de Dieu pour ce monde. Elles sont donc apparues, hélas, avec le péché comme un élément du jugement divin sur la création, sur toute la création. La Sainte Bible déclare, « La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il s'y est soumis. » Romains chapitre 8, verset 20. Donc, Dieu a soumis le monde à la vanité de la souffrance physique pour démontrer l'horreur du mal moral. La vanité, elle englobe donc la mort, car par un seul homme, c'est-à-dire par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Romains chapitre 5, verset 12. Elle englobe donc aussi toutes les douleurs qui sont liées à la maladie. Et les chrétiens n'en sont absolument pas épargnés, pas exempts. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit Saint, autrement dit, nous qui croyons en Jésus-Christ, eh bien nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, en attendant la rédemption de notre corps. Romains, chapitre 8, verset 23. Mais toute cette misère inhérente à la maladie, elle est temporaire. Nous attendons le jour où la souffrance corporelle n'existera plus jamais. L'assujettissement de la création à la vanité n'est pas permanent. Dès le début de son jugement, Dieu a donné de l'espoir. Son but final, c'est que la création aussi soit affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 21. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, il y a eu pour mission, d'opérer cette rédemption globale. Donc, il en a donné des signes en guérissant beaucoup de malades pendant sa vie terrestre. En certaines circonstances, où les foules étaient rassemblées autour de lui, il guérit carrément tous les malades. Notez Saint Matthieu, chapitre 8, verset 16, et Saint Luc, chapitre 6, verset 19. Ça, c'est un aperçu de ce qui se passerait à la fin de l'histoire. Alors là, il essuiera toutes nos larmes, toutes les larmes de nos yeux, et la mort, elle ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Notez Apocalypse chapitre 21 et le verset 4. Donc, pour vaincre la mort et la maladie, Jésus-Christ les a pris sur lui-même et les a entraînés avec lui dans la tombe. Du reste, lors de ses souffrances et de sa mort, Jésus a subi le jugement qui est la cause de la maladie et de la mort dont Dieu frappe le péché. Voici donc comment le prophète Ésaïe explique la mort de Jésus-Christ. Il dit qu'il était blessé, Jésus, pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Les coups de fouet horribles qui se sont abattus sur le dos de Jésus, ils ont donné naissance à un monde sans maladie. Et un jour, quand il n'y aura plus le péché, alors, écoutez bien, toute maladie sera exclue de la création rachetée. Il y aura une nouvelle terre et nous aurons un nouveau corps. La mort, elle sera engloutie dans la vie éternelle. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54, et notez 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 4. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Ésaïe 65, verset 25. Oui, tous ceux qui aiment Jésus-Christ entonneront des chants de reconnaissance à l'agneau immolé pour nous racheter du péché, pour nous racheter de la mort et de la maladie. Maintenant, nous arrivons à 19e raison pourquoi Jésus doit mourir. Eh bien, Jésus doit mourir pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il est dit dans Saint Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans nos moments les plus heureux, nous ne voulons pas mourir. Le désir de mourir ne survient que lorsque la souffrance devient insupportable. Ce que nous souhaitons à ce moment-là n'est pas tellement la mort que le soulagement. Nous aimerions que le bon temps revienne et que la souffrance s'en aille. Nous aimerions que nos bien-aimés reviennent à la vie et nous aspirons à la vie et au bonheur, bien sûr. Nous nous faisons des illusions, chers amis, quand nous concevons la mort comme étant l'apogée d'une vie vécue. La mort, c'est un ennemi. Elle nous arrache à tous les plaisirs sains de ce monde. Nous collons à la mort des noms. Là, nous disons des noms doux, comme si ça pouvait changer quelque chose. Alors nous disons des mots doux comme étant le moindre mal. Par exemple, le bourreau, Satan, qui donne le coup de grâce. Et comment ? Dans notre souffrance. Il ne comble pas notre attente. Non, non, non. Mais Satan met plutôt fin, croyez-moi, à tout espoir. Or, disons bien que le cœur humain soupire après la vie et après le bonheur. Dieu, il nous a créés ainsi. Il a mis dans leur cœur, dans nos cœurs, la pensée de l'éternité, est-il dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Dieu nous a créés à son image. Dieu aime la vie et il vit à jamais. Il nous a fait pour vivre éternellement. Et ce sera le cas. Oui, le contraire de la vie éternelle, ce n'est pas l'annihilation, pas du tout, mais c'est l'enfer, la souffrance éternelle, terrible. Jésus en a parlé beaucoup plus que quiconque. Il a expliqué ouvertement que celui qui rejette la vie éternelle, avez-vous entendu, que celui ou celle qui rejette la vie éternelle, qu'il offre, eh bien, que Dieu offre, que Dieu nous offre, il ou elle ne sombrera pas dans l'oubli, non, 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 mais il ou elle connaîtra la misère du courroux divin. Or, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, nous est-il dit, et que celui qui ne croit pas au Fils, c'est-à-dire en Jésus-Christ, il ou elle ne verra point la vie, mais la colère de Dieu, elle demeure sur lui et sur elle. Notez Saint Jean, chapitre 3, verset 36. Cette colère, elle subsistera éternellement. Jésus a très clairement dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, ils iront à la vie éternelle. Notez Saint Matthieu, chapitre 25, verset 46. Cette parole des plus solennelles, elle nous montre donc la gravité inie, infinie, de traiter Dieu avec indifférence ou avec mépris. faisons attention à cela. Le Seigneur, il nous met en garde avec beaucoup d'amour. Notez Saint Marc, chapitre 9, versets 47 et 48. Il nous dit, supposons que ton œil est pour toi une occasion de chute. Alors, arrache cet œil. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Avez-vous entendu? Saint Marc, chapitre 9, versets 47 et 48. C'est pas moi qui dis cela. C'est la Sainte Bible. Je n'oserais jamais dire autre chose ou vous enseigner autre chose que ce qui est écrit dans le Saint Livre. La vie éternelle n'est donc pas le prolongement de cette vie avec son mélange de souffrance et de plaisir. Si l'enfer en est la pire issue, eh bien la vie éternelle en est la meilleure. Ce sera un bonheur suprême et sans fin. Ce sera un bonheur exempt de tout péché et de toute tristesse. Fini de pleurer, fini de gémir. Tout ce qui est mauvais et nuisible dans cette création déchue aura donc disparu. Tout ce qui est bon, tout ce qui apporte un bonheur vrai et durable, subsistera. Tout sera purifié et amélioré. Gloire à Dieu. Et nous serons donc changés pour être adaptés aux dimensions d'un bonheur que nous ne pouvons concevoir ici-bas. Ce sont donc des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. C'est vrai à tout moment de la vie, et cela maintenant et pour l'éternité. Le meilleur est donc à venir pour tous ceux qui se confient à Jésus-Christ. Nous contemplerons la gloire toute suffisante de Dieu. Et il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, Saint Jean, chapitre 17, verset 3. Et donc c'est pour cela que Jésus-Christ a souffert et qu'il est mort. Chers amis, pourquoi ne pas le saisir comme étant notre trésor et notre vie, et de vivre en plus pour un avenir incomparable? Et maintenant nous arrivons à 20e, la 20e raison pourquoi Jésus doit mourir. Eh bien, la 20e raison pourquoi Jésus doit mourir pour nous, c'est de nous délivrer du présent siècle mauvais. Oui, notez Galates, chapitre 1, verset 4. Il est dit que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour tous nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père. jusqu'à notre mort donc, à moins que Jésus-Christ ne revienne pour établir son royaume avant, eh bien nous vivons dans le présent siècle mauvais. Et c'est pourquoi, lorsque la Sainte Bible dit que Jésus-Christ s'est livré pour nous arracher au présent siècle mauvais, cela ne signifie pas qu'il nous ôte du monde pour nous mettre chez les carmélites. Non, Jésus a prié ainsi. Écoutez bien. Père, je ne te prie pas de leur ôter, les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Je répète, Saint Jean chapitre 17, verset 15, où il est dit que Jésus avait prié ainsi. Il a dit, « Mon Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin, de Satan. » La raison qu'il a poussé à prier pour notre persévation, c'est-à-dire pour notre préservation du malin, eh bien c'est que le présent siècle mauvais correspond bien entendu au temps où Satan a la liberté de séduire et de détruire, et ce temps est bientôt révolu. La Sainte Bible le déclare très clairement, le monde entier se trouve sous la puissance du malin. Première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 19. Et ce malin, il n'est autre que le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, dont le but, croyez-moi, c'est d'empêcher les hommes et les femmes de voir la vérité. Le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence des incrédules, et cela afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. À moins de nous réveiller de notre sombre condition spirituelle, alors nous vivons actuellement en harmonie avec le présent siècle mauvais et son prince. Mais nous ne voulons pas que cela continue. Vous marchiez autrefois, est-il dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, verset 2. Nous étions donc inconsciemment, nous étions les larbins du diable, de Lucifer. Ce qui semblait être la liberté était en fait la servitude. Et oui, la Sainte Bible est très à propos pour les adeptes des modes passagères, pour les adeptes des amusements et des dépendances, quand elle déclare en 2 Pierre, 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 19, il leur promette la liberté, est-il dit, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et croyez-moi, à bientôt 92 ans, 92 ans, j'ai hélas connu cet esclavage. Le cri retentissant de libération que pousse la Sainte Bible, c'est ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains, chapitre 12, verset 2. Affranchissez-vous, ne vous laissez pas mystifier par les gourous de notre temps. Ils sont là aujourd'hui, mais ils auront disparu demain. Et croyez-moi, tout cela, ils vont être voués à une mort certaine, tous les gourous de notre temps. Une mode asservissante fait donc place à la suivante, c'est-à-dire dans environ 30 ans, les tatouages modernes que les hommes et les femmes se font faire ne seront plus du tout des signes de libération, mais seront les marques indélébiles d'une conformité au monde et au jugement final. Je répète, les tatouages modernes de nos jours ne seront plus des signes de libération, mais ce seront les marques indélébiles d'une conformité au monde et au jugement final. La sagesse de ce siècle, c'est de la folie au regard de l'éternité. Que nul, est-il dit, ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est carrément une folie devant Dieu. Notez 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 18 et 19. Oui, la prédication de la croix est vraiment une folie pour tous ceux qui périssent. Notez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce qui manifeste alors la sagesse de Dieu dans ce siècle actuel? C'est la mort. La mort suprêmement libératrice de Jésus-Christ. C'est les premiers disciples de Jésus qui ont déclaré « Nous prêchons Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Nous prêchons la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 23 et 24. Lorsque Jésus-Christ a été cloué sur la croix, il a libéré des millions, oh oui, des millions de captifs. Il a mis au grand jour les ruses de l'ennemi et il a brisé sa puissance. Tel est donc le sens de la parole qu'il prononça la veille, qu'il a prononcée la veille de sa crucifixion, quand il a dit « Maintenant, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Saint Jean, chapitre 12, verset 31. Ô mes chers amis, ne suivez donc pas un ennemi, croyez-moi, qui a été vraiment vaincu. Suivez plutôt Jésus-Christ. Cela vous coûtera, bien sûr, car vous serez un étranger dans ce siècle présent, mais vous serez libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous arrêtons pour aujourd'hui. Demain, Dieu voulant, nous aurons le CD numéro 6 et nous aurons la 21e raison pourquoi Jésus doit mourir. Chers amis, pour l'instant, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous encourager, mais aussi pour votre édification personnelle. Écoutez attentivement. Il faut se livrer à des exercices plus humbles quand on est fatigué des plus relevés. Mes fils et mes filles, nous dit Yahvé l'Éternel, vous ne sauriez sentir toujours une égale ardeur pour la vertu, ni vous maintenir sans relâche dans un haut degré de contemplation, mais il est nécessaire, à cause du vice de votre origine, que vous descendiez quelquefois à des choses plus basses et que vous portiez malgré vous et avec ennui le poids de cette vie corruptible. Tant que vous traînerez ce corps mortel, eh bien, vous éprouverez un grand dégoût et l'angoisse du cœur. Il vous faut donc, pendant que vous vivez dans la chair, il vous faut gémir souvent du poids de la chair et de ne pouvoir continuellement vous appliquer aux exercices spirituels et à la contemplation divine. Cherchez alors tout simplement un refuge dans d'humbles occupations extérieures et dans les bonnes œuvres, une distraction qui vous ranime, et attendez avec une ferme confiance mon retour, oui, mon retour, et la grâce d'en haut. Souffrez donc patiemment votre exil et la sécheresse du cœur jusqu'à ce que je vous visite de nouveau et que je vous délivre de toutes vos peines. Car je reviendrai, et oui, et vous ferez oublier tous vos travaux de jouir du repos intérieur. J'ouvrirai donc devant vous le champ des saintes Écritures, afin que votre cœur dilaté d'amour vous presse de courir dans la voie de mes commandements. Et vous direz, oui, que les souffrances du temps n'ont point de proportion avec la gloire future. Ils n'ont point de proportion avec la gloire future qui, elle, sera manifestée en nous pour l'éternité. Romains, chapitre 8, verset 18. Et maintenant, prions ensemble. Le Saint Livre, la Sainte Bible, elle nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là et celle-là sera sauvé. Sois donc fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ô Seigneur notre Dieu, tu as armé tes fidèles témoins de la puissance de ton Saint-Esprit pour qu'ils ne confessent pas de la bouche seulement. Non, pas seulement de confesser par la bouche le Seigneur et Sauveur, ton Fils Jésus-Christ, mais aussi par leur persévérance, par notre persévérance jusqu'à la mort. Enflamme donc notre courage au contact du leur, entretiens vivante en nous leur foi véritable et notre immense gratitude. Fais luire sur eux ta face, ô Dieu des consolations éternelles, et rends-nous dignes de cette communion des saints à laquelle tu nous as, nous aussi, appelés. Amen. Amen. Et rappelez-vous, mes chers amis, que Dieu vous aime. Oui, c'est un fait. Tous ceux qui ont un jour été assez humbles pour reconnaître, comme ce fut le cas pour moi, que j'étais perdu par les péchés et que j'avais besoin d'être sauvé, d'accepter la main tendue de Jésus-Christ pour recevoir le salut éternel. Eh bien oui, il vous aime. Et il est donc de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, là où vous vous trouvez, soit tout près, soit au loin, je vous enlace maintenant avec tout mon amour. Et je vous embrasse tous et je vous dis oui, Dieu vous aime et je vous aime de tout mon cœur. Et soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé, 1960. Ça ne fonctionne pas toujours. Des fois, il y a des ratés. Mais essayons quand même. Et vous verrez, même si ça rate parfois, le Saint-Esprit se trouve dans ces chants où l'audibilité n'est plus parfaite. Essayons quand même. Pour nous rendre heureux.
Mais avant tout, je avant tout, je voudrais voir Jésus. La gloire de l'auteur de mon salut. Je verrai tous les saints dans le séjour divin. Mais avant tout, je voudrais voir Jésus. Je voudrais voir la ville d'or et toutes ses splendeurs. Préparé pour les élus, et l'arbre de la vie auprès du fleuve du Seigneur. Mais avant tout, je voudrais voir Jésus. Mais avant tout, je voudrais voir Jésus. La gloire de l'auteur de mon salut.
Sera ton cœur.